Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC.
Rebound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Oh, yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mercredi à minuit. Une émission qui est tellement bonne que vous la retrouvez en version longue en podcast pour profiter à fond de l'expertise de notre Dream Team et des blagounettes de Stephen Brun. Bonjour Stephen et Fred Weiss.
Bonjour,
ça va,
bonjour.
Messieurs ?
Salut mon petit Pierrot.
Alors Stephen, qui participe au tournoi de tennis de table de l'After, est en sueur, comme s'il était prêt à entrer pour deux dernières minutes d'un match de playoff NBA.
Exactement.
Déjà dans le rythme.
Chose qui n'arrivera jamais.
Le cardio à fond. T'avais un bon cardio ?
J'avais un cardio correct.
En fait, t'avais tout correct. Et puis.
Il n'y avait rien de très bon.
Et puis, un truc qui dégoupillait dans le cerveau. Et puis là, tu savais si c'était le meilleur ou le pire, quoi.
Exactement. Souvent le pire.
Souvent le pire ? Oui. Non, tu étais dur avec toi.
Non, souvent le pire dans le comportement.
Non, mais oui, mais parfois ce comportement te faisait
mettre
des filoches.
Exactement, aussi.
Ouais, alors que Fred, c'est pas comme ça. C'est un mec plus placide, plus régulier.
Terre à terre.
T'as jamais trop pété un câble sur un parquet, toi aussi ?
Ça m'est arrivé quelques fois, mais pas aussi souvent que
lui,
évidemment.
Non, mais lui, c'était sa marque de fabrique.
Exactement.
Alors, c'est un spécial Giannis Antetokounmpo. Et ça, c'est bien. Parce que là, il y a du vrai débat. C'est un peu comme Harden. C'est des immenses joueurs qui ont des failles, quand même. Alors, Harden, c'est peut-être dans les go. Antetokounmpo, c'est peut-être technique, on va en débattre.
Les mains pleines de pouces.
Aujourd'hui, dans Basket Time, est-il un MVP, je recommence à zéro. Giannis, est-il dans la course au MVP, tout simplement ?
Pour faire le three-peat ?
Pour faire le three-peat, pour rejoindre
Larry Bird.
Larry Bird dans la légende, absolument. Milwaukee peut-il lutter à l'Est ? Milwaukee champion avec Giannis, pourquoi pas ? Et puis, alors comme la dernière fois qu'on a tenté ça, c'était un vrai succès, vous avez adoré, nous allons redrafter 2013.
On va redrafter.
Ok, de 2013, l'année de Giannis, alors qui est pas exceptionnelle, hein. On va pas se mentir.
C'est pas la meilleure année.
C'est pas terrible. Hein.
On va pas se mentir.
J'ai cru voir au 60e choix, je me suis dit à un moment donné, il y a Pierre Dorian qui va apparaître.
Disons que s'il y avait trois tours, j'avais ma chance, quoi.
C'est clair.
Et puis bien sûr, un quiz spécial de Giannis. C'est parti pour Basket Time le mercredi à minuit en version longue en podcast sur rmc.fr.
My name is Giannis Antetokounmpo. I want to be NBA player.
Antetokounmpo, defended by Thomas. Time winding down. Antetokounmpo on the feint. It's good at the buzzer.
Giannis is 26, correct? So can you imagine if Michael Jordan had left the Bulls at 25? He didn't win his first championship at 28.
It has been incredible. Here it comes again. Goodness. And a Greek basketball guy. Raining down on the Pistons.
C'est un Basket Time spécial Giannis Antetokounmpo, joueur grec d'origine nigériane. Les parents sont nigérians et ont émigré en Grèce 3 ans avant sa naissance. Et donc double MVP, Most Valuable Player de 2019 et de 2020, et qui est donc potentiellement peut faire un triplé historique, puisque seuls Larry Bird et Bill Russell ont obtenu cette distinction 3 fois d'affilée. Oui, mais il n'est pas seul à être en course pour le MVP. Il est tellement pas seul qu'on se demande simplement s'il est dans la course avec des stats de près de 29 points, 12 rebonds et 6 passes décisives depuis le début de la saison. Et puis qui nous a offert une performance historique il y a quelques jours contre Portland avec un 18 sur 21 au shoot et 47 points au final.
Sachant qu'il a fait 18 sur 18 à 2 points, parce que s'il a fait 0-3 à 3 points.
Bah c'est pas étonnant et ça fait partie,
du débat, c'est clair.
Ça fait partie du débat. Est-ce qu'il est dans la course cette saison, Fred ?
Difficile à dire qu'il n'est pas dans la course, regarde ses stats. Il a 29 points quasiment de moyenne, plus de 11 rebonds, plus de 6 passes. Son équipe est 3e. Honnêtement, bien sûr, il fait les stats. Après, il y a d'autres choses à poser comme question, mais en termes de MVP potentiel, oui, évidemment.
MVP potentiel, oui. Steve ?
Non, MVP potentiel, bien sûr qu'il est forcément dans la course au titre de MVP, mais il est pas dans les premiers rôles. Il y a des gens devant lui. Alors pourquoi cette année il fait pas figure de favori ? Parce que déjà la concurrence est fantastique. Joel Embiid, Nikola Jokic, James Harden.
Tu mets pas Harden en premier ?
Non, je mets Jojo.
Tu mets Jojo.
Je vais jouer à Embiid. Reste avec Jojo.
Ah, Joel Embiid. D'accord.
Et tu mets Jokic dans cette course devant Giannis.
Je mets Jokic devant Giannis parce que Denver est en train de monter.
Là, ils ont décollé carrément.
Ils décollent sur la conférence Ouest parce que c'est un mec. Je parle de Jokic qui vient d'effacer Will Chamberlain sur le nombre de matchs à plus de 10 passes décisives pour un pivot. Ça aussi, c'est une performance historique parce qu'il a le plus de triple double derrière Westbrook cette saison. Mais pour revenir à
et Westbrook, d'ailleurs, on le met pas dans la course. Il se trop largué Washington.
Oh, même en Jeep Elite, il est pas champion avec Washington. Russell Westbrook. Déficit de victoire.
Il fait quand même une saison fantastique.
Oui. Mais à un moment donné, tu
pas de problème.
Et pour revenir sur Giannis, la concurrence d'une et de deux, les Bucks ne sont plus dominants comme ils l'étaient les deux années précédentes dans la conférence Ouest. Alors oui, les chiffres sont encore impressionnants. Il y a une baisse au rebond. Il fait son record en carrière en nombre de passes décisives, mais malgré tout, il joue 4 minutes de plus que la saison dernière. Et on s'aperçoit que l'arrivée de Jrue Holiday lui permet de faire plus de passes décisives parce qu'il y a un scoreur en plus. Mais de temps en temps, il passe à côté. Il y a eu un back-to-back contre Boston où il a fait 16 et 13. Et ça fait tâche pour un mec qui est prétendant MVP de mettre que 13 points.
On en est quand même 16-13, ça fait tâche maintenant.
Mais c'est un mec qui a banalisé les stats aussi. Un 38 et 15 de Giannis Antetokounmpo, quand tu te réveilles le matin, t'es même plus en train de te dire
c'est malheureusement ça devient du classique.
Tu regardes Antetokounmpo 38-15, hop, et puis tu passes au nombre après en fait, parce que c'est devenu.
Mais tu regardes si Harden a fait mieux ou
exactement.
Ou
et puis il y a un point noir chez Giannis Antetokounmpo. Fred parlera de son shoot. Moi, c'est le seul.
Ok. Moi,
je vais bien m'en charger de son shoot.
Non, mais c'est très simple. C'est dans le classement de ceux qui perdent le plus de ballons. Giannis est là et c'est le seul mec qui ne joue pas au poste d'extérieur en fait. Devant lui, il y a des Trae Young, des Luka Doncic, des James Harden, des Russell Westbrook. Et lui, il est là avec ses garçons qui montent la balle, jouent des pick and roll. Et lui, il perd 4 ballons de moyenne alors que c'est un big man.
3,8 ballons perdus.
On dirait 4, histoire de
mettre un putac. D'ailleurs, son record en carrière. Moi, je vais vous dire, je vous le dis depuis le début de cette saison de Basket Time.
Mais toi, tu l'aimes pas.
Non, c'est pas que j'aime pas. Je sais... Il est fantastique athlétiquement, c'est incroyable, mais je ne sais pas comment les Américains ont pu élire MVP un mec, en fait, qui ne sait pas shooter, et qui, l'autre jour, je regardais un résumé de Milwaukee, je vois quoi, 8 ballons perdus, mais qu'est-ce que c'est pas un MVP, ça. Je suis désolé, c'est un mec, c'est un bulldozer.
Il perd des ballons. Oui, ça c'est sûr.
Il défonce tout le monde. Et alors là, bravo à lui, hein. Et là, il n'y a pas de souci. C'est un grand joueur, on va pas exagérer, forcer le trait ou je sais pas quoi. Mais ce n'est pas suffisant pour moi, ne serait-ce que pour avoir un titre d'MVP.
Bah, il y en a deux, là.
À l'exception. Exactement. Non, mais je trouve ça fou, moi. À l'exception, c'est s'il fait gagner Milwaukee. C'est-à-dire que tu as des carences. Mais tu as suffisamment de qualité pour faire gagner ta franchise, il n'y a pas de problème.
Non, mais Pierrot,
tu mérites d'être MVP.
Ça, on ne pourra pas le savoir parce que le titre de MVP est décerné sur la saison régulière.
Non, mais je sais bien. Mais dans l'esprit, si tu veux, moi, un mec qui a de telles carences ne peut pas être MVP sauf s'il devient champion. Mais il se trouve qu'à chaque fois qu'il faut être champion, ça ne marche pas. Non, donc,
En termes d'image, regarde quand il joue au basket, ce mec, effectivement, hein, encore une fois, je parlerai du shoot, et effectivement, il a des vraies carences sur le shoot, il n'a pas progressé sur son shoot à 3 points, il en prend même moins que la saison dernière, oui. Mais regarde le jouer au basket, on dirait un adulte qui joue
avec
contre
des enfants.
Enfants,
t'as raison.
Donc à partir de là, c'est le mec domine. Pas de la façon que t'aimerais voir, évidemment, mais le mec domine, il est supérieur aux autres.
Non, mais alors à ce moment-là, que Milwaukee lui mette des extérieurs incroyables, des mecs qui
shootent,
pourquoi ils sont pas champions? Parce que c'est pas le MVP, c'est tout.
Et pourquoi je te rejoins?
Hyper réducteur, mais je suis d'accord.
Pierrot, pourquoi je vais un petit peu dans ton sens? Parce que moi, ce sport, le basket, en fait, à la base, c'est quand même un sport d'adresse, en fait. C'est avoir une finesse avec les doigts, je sais pas. Et là, je me retrouve pas, en fait, chez Giannis.
Non, mais en fait, c'est un sport où il faut mettre juste plus de points que l'adversaire. Un mec qui met quasiment 30 points de moyenne, quelle que soit la manière où il l'aimait, il l'aimait. Ouais, et tu sais très bien que je suis comme toi. Je préfère du beau jeu que du jeu à la bourrin. Sauf qu'à un moment, faut juste constater ce qu'il y a à la réalité. T'as un mec qui est capable de te mettre 30 points, 11 rebonds, les doigts dans le nez,
surtout en sifflant,
de camp sur tout le monde.
C'est surtout ça. C'est vrai que la manière est impressionnante.
En sifflant, mais à la Simon Darnozan.
À la
Simon Darnozan, comme Lolo Sierra dans sa conférence de presse.
Non, mais c'est vrai ce que tu racontes, Fred, mais c'est pas non plus Shaquille O'Neal. C'est-à-dire que si tu es le pivot dominant, que tu déboîtes tout le monde pendant une demi-douzaine d'années...
Mais qui est-ce qui déboîte pas? Mais juste, dis-moi, il ne déboîte pas.
Il déboîte jusqu'à la finale NBA, le Shaq.
À Shaq, oui.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on parle de saison régulière. Sur la saison régulière, est-ce qu'on peut dire que Giannis domine moins que Shaq?
Oui, pour moi, oui.
Ben, je suis pas si sûr
que
ça, moi.
Il déboîte tout le monde en play-off, et là, il n'y a plus de
débat.
Oui,
mais encore une fois, je te parle de saison régulière. En saison régulière, est-ce qu'il domine plus que Shaq? Je ne suis pas sûr.
Après, il faut aussi penser que Giannis Antetokounmpo a 26 ans
et que malgré tout ça reste jeune. On a entendu dans la prod Barclay dire que Jordan avait été champion à 28 ans. Pourquoi tu me regardes?
Non, parce que ce ton grave que t'as pris a mis un coup très solennel à ce débat, et j'ai cru que t'allais nous annoncer qu'il a été martyrisé quand il était gosse.
Non, Jordan a été champion à 28 ans, donc ça lui laisse encore peut-être un petit peu de temps. Maintenant, il est dans une franchise qui est pas ultra sexy, qui galère pour entourer Giannis Antetokounmpo de forts joueurs, parce qu'on a fait une émission la semaine dernière après la trade deadline où on s'est aperçu que...
D'où le gros contrat de Jrue Holiday.
Exactement, d'ailleurs. C'était la course à l'armement. Et puis, la problématique, pourquoi je vois pas Giannis Antetokounmpo être trois fois MVP consécutif, c'est parce que les Américains sont un petit peu conservateurs, et ma main a coupé que les votants ne permettront jamais à un Européen de rejoindre Larry Bird et Bill Russell. Ils lui fileront pas une troisième fois de suite.
Et c'est pourquoi aussi.
C'est pas une bonne raison, mais t'as pas.
C'est pas une bonne raison.
Et j'en ai une autre du même style. James Harden, si il était élu MVP, ça serait le premier joueur de l'histoire dans son année de transfert à être élu MVP. Et ça, ils aiment bien les belles histoires, les Américains. Ils se lassent rapidement.
Et pour le coup, le mérite peut-être Harden. Hein.
Alors moi, je donnerais pas Harden. Meilleur passeur. Je donnerais pas Harden. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une tache noire. C'est comment il a quitté Houston.
Vraiment,
il est parti en conflit ouvert avec les Rockets.
On l'a déjà dit ça, on est d'accord ça.
Est-ce que tu juges ça au moment du vote?
Forcément que ça c'est dans deux mois, donc les gens ont oublié, mais moi j'ai pas la mémoire courte, Pierrot. Je le dis tout de suite.
Oui, mais
Harden, si tu le crois, il va voir de quelle boîte tu te chauffes. C'est sûr. Un contre un, Stephen à son prime, Harden à son prime. Ça se passe comment?
Ça dépend pas beaucoup. Je pense que ça finit à 199.
Non, si je commence avec la balle, peut-être je vais mettre un panier, mais sinon je fais beaucoup de remises. C'est, ça dépend, c'est balle gagnante ou pas? C'est-à-dire que celui qui marque, il garde la balle?
Ah oui, on peut faire ça.
Ouais. Ça peut jouer.
Hein. Oui.
Alors, après, donc on le disait, on va voir en play-off et on va voir aussi face à... Moi, là, je parle pas en spécialiste, mais face à ce qui est sa kryptonite, c'est-à-dire la défense de zone, est-ce qu'il est capable d'aller au-delà? Tu peux demander ça à quelqu'un qui est candidat au MVP quand même, non?
Je crois qu'il a pas de, le problème de Giannis Antetokounmpo, c'est qu'il n'a pas de plan B dans son jeu.
C'est un vrai problème, non?
Je traverse le terrain, je vais tout droit. Alors, il a des qualités, il a des Eurostep, il a des appuis décalés, il a des speed moves et tout ça. C'est pas un mec brut de décoffrage non plus, hein.
Il joue au basket quand même.
Ça reste un basketteur. Mais il n'y a pas de deuxième option, en fait. Et on s'en a aperçu,
contre Miami, par exemple.
Contre Miami.
Ouais, mais Stephen, un mec qui met 30 points sans deuxième option, je comprends qu'il en cherche même pas.
Non, mais après,
ah oui, mais,
non,
mais
après,
les, après pour la saison régulière, il doit avancer. Pierrot, Fred, tu sais très bien qu'en playoff, les équipes vont compacter la raquette.
Est-ce que vous imaginez des playoffs différents cette année pour Milwaukee? Est-ce qu'il aura progressé?
J'espère qu'il a appris des saisons précédentes.
Moi, je vois pas comment. Encore une fois, toute l'année, il applique un basket. C'est très difficile, hein, de s'adapter et de faire un basket différent en playoff parce que les défenses sont différentes.
Il va pas s'acheter un tir en playoff. Et il faut revenir sur son tir quand même. Souvent, on me dit, c'est pas un shooter, mais il va travailler. À un moment donné, tu nais avec ça ou tu l'as pas. Tu peux travailler des heures et des heures.
Progresser quand même.
Tu peux progresser, mais ça ne deviendra pas un shooter à 3 points.
Jamais un shooter à 3 points. Mais par contre, là, il est à 30% depuis quelques années. Ouais, il en prend un peu moins.
Il fait 1 sur 3, quoi.
Ouais, bah oui.
Et alors, à quoi ça sert, expliquez-moi un truc, là, je pose la question naïvement. À quoi ça sert, lorsque t'es coach, de faire encore des systèmes pour un 3 points de Giannis? Sachant qu'il met 30%.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as regardé un peu des matchs de Bucks, non? Un ou deux par hasard?
Très peu.
T'es jamais tombé dessus?
Un match en entier, non.
Quand tu cherchais Marc Dorcel TV, t'es pas tombé sur NBA.
C'est-à-dire qu'entre Dorcel et Antetokounmpo, faut vraiment se tromper, hein. Là, donc, j'ai pas trop d'excuses.
Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, le défenseur d'Antetokounmpo, il se met dans la raquette et il flotte. T'es obligé de tenter de punir cette défense-là. C'est pour ça qu'il mise souvent, il est en tête de raquette, il est tout seul. Il est obligé
de prendre.
Il prend ce que le jeu lui donne à un moment donné. Il le prend
Trop clairement aussi. Hein. Parfois, il le force vraiment, parce qu'il sait que s'il le fait pas, ça va défendre sur lui tout le temps comme ça. Donc, il est obligé de le forcer.
Okay. Ça fait
airball parfois. C'est catastrophique.
J'ai compris ce que t'as dit.
T'as compris?
Ouais, j'ai compris. Basket Time le mercredi à minuit en version longue en podcast sur rmc.fr.
Before we wrap up, I just want to ask one question about the Eastern Conference, and it has to do with Jrue Holiday. He agreed to a 4-year, $135 million extension that includes bonuses, according to Woj.
Good for the lead. Jrue Holiday for the victory. Big shot, Jrue Holiday.
What's up, Bucks fan? I'm a Buck for life.
Les Bucks champions à l'Est, champions tout court, est-ce que c'est possible? Ils sont troisième actuellement à seulement deux victoires, hein, de Philadelphie et de Brooklyn, mais c'est une équipe un peu moins impressionnante que les deux saisons dernières. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred, champion à l'Est?
Non.
Possible?
Non.
Possible?
Pour moi, non. Impossible. D'accord. Parce qu'en face, t'as deux équipes qui sont supérieures pour moi. C'est les Sixers, bien sûr, emmené par Joel Embiid, mais pas que. Hein. Il y a Harris, il y a vraiment du Ben Simmons, Seth Curry qui apporte aussi. Il y a Dwight Howard qui peut défendre, par exemple. Donc concrètement, c'est plus fort pour moi. Et on parle même pas des Nets. Les Nets, on en a parlé déjà. Si l'effectif des Nets est au complet avec KD, notamment, qui revient en forme, qui va arrêter cette équipe des Nets? Du coup, à l'Est, en tout cas.
D'accord. Donc, c'est plus le niveau des Nets que celui des Bucks.
C'est la concurrence. Et si j'ai envie de glisser un petit mot sur Brooklyn, moi, je l'aime bien. Cette équipe de Brooklyn, elle est fantastique. Sauf que je les ai pas vus jouer ensemble, en fait. Ça n'existe pas, cette super team des Nets.
Pour l'instant, les mecs sont jamais là. Tant que Durant est blessé.
C'est un peu comme l'équipe du Canada national.
Oui, à peu près. Ce qui est dingue, c'est que même quand il y en a un seul sur les trois, ils continuent de performer, quand même.
Ils sont fait taper par Chicago dans la nuit de dimanche à lundi.
Et ils sont à 34-16.
Et un beau match de
Brooklyn. En ayant eu pratiquement pas Kevin Durant et Irving qui a raté beaucoup de matchs.
Exactement.
Aussi.
Hein. Mais pour revenir sur Milwaukee, le problème c'est que moi je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir avec cette philosophie de jeu qui est le tir à trois points outrance et Giannis qui va tout droit. En playoff, ça se crache. Les deux dernières années, c'était une des meilleures équipes offensives. Et quand sont arrivés les playoffs, c'était 7 ou 8 points au moins offensivement parce que les défenses, ça défend mieux. On le sait hein, que les mecs activent le mode on défensif quand les playoffs arrivent.
Et est-ce que Budenholzer n'est pas aussi incapable de s'adapter en playoffs? Il l'avait fait il y a quelques années déjà. Est-ce que c'est pas une difficulté pour lui en plus?
J'ai l'impression que Mike Budenholzer ne propose pas autre chose à Giannis Antetokounmpo parce qu'il estime que ce garçon-là est capable de faire beaucoup de choses par lui-même, et défensivement, il y a un souci. Les deux dernières années, c'était la meilleure équipe au defensive rating, elle est 8e cette année, elle prend beaucoup de points, alors qu'ils ont récupéré un défenseur d'élite avec Jrue Holiday, qui est peut-être un des top 5, top 6 meilleurs défenseurs de la NBA. Ils prennent trop de points, tout simplement, et pour moi, c'est rédhibitoire en play-off.
Alors, Jrue Holiday, qui a signé quand même un contrat de 160 millions sur 4 ans, on est dans le prix du marché ou c'est démentiel?
Prix du marché à Paris, hein. dans le 15e ou dans le 16e.
Non, ça paraît démentiel et ça l'est un petit peu, bien sûr, mais est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Ils ne pouvaient pas tirer d'autres stars? C'est quand même un très très bon joueur. Tu n'avais pas vraiment le choix. En gros, petit marché, tu n'avais pas énormément de choix par rapport à ça.
Il fallait sécuriser.
Et puis ça te permet d'avoir Big Three qui est sécurisé jusqu'à 2023.
Ils ont un Big Three.
Tu peux travailler.
Maintenant, la vraie problématique, c'est que financièrement, ils vont se retrouver avec trois joueurs à plus de 30 millions la saison. Ça veut dire que la luxury tax, s'ils acceptent de la payer, ils vont avoir du mal à renforcer le banc.
Ils vont être obligés de la payer. Ils vont être à 105 millions par an. Là.
Après, ils espèrent qu'il n'y ait pas les bonus, parce que tu as des bonus quand tu es champion et tout ça.
Je suis d'accord, mais ils vont la
mais
payer.
Mais tu te mets une petite balle dans le pied pour renforcer ton banc, parce qu'il va falloir prolonger des mecs. Je crois que l'Italien Dante Di Vincenzo va bientôt arriver en fin de contrat. Sachant que les Bucks est un petit marché, et que les buyouts, ce qui s'est passé avec Brooklyn, la Marcus Aldridge et Blake Griffin qui ont envie d'aller là-bas, que André Drummond, ça n'arrivera pas parce que ces joueurs-là ne veulent pas aller à Milwaukee pour finir leur carrière.
Ils ont pris P.J. Tucker dans les trades, ça vaut quoi ça?
La plus grosse qualité de P.J. Tucker, c'est que c'est un collectionneur de Jordan. Voilà.
Ok.
Mais il va avoir 36 ans, il est quand même en baisse de régime, il a l'expérience, c'est un vétéran, il peut apporter.
Il sera dans le corner à attendre les passes de Giannis Antetokounmpo et à tirer à 3 points comme Brook Lopez, comme tous les mecs de cette équipe là, voilà. Mais
gros défaut au poste 5 aussi hein, dans cette équipe.
Bah ils en ont pas. Brook Lopez c'est le Porzingis en fait, avec 30 kilos de plus. Il passe son temps à tirer à 3 points.
Bon après tu nous parles de Di Vincenzo, c'est cet Italien de Newark dans le Delaware.
Un bon joueur
qui s'est fait contrer par Nicolas Batum
en fait.
Non, c'est le nom, la consonance italienne.
Oui. Ok, donc les Bucks, pas champion, c'est rectifié.
Pas champion. Parce que pas d'option B, parce que
le coach, je pense, c'est une vraie limitation aussi.
Alors, le coach aussi. Bah, dis-nous un mot de Mike Budenholzer.
Il était aux Hawks et je me souviens bien, il avait fait des saisons régulières plutôt pas mauvaises, même très bonnes. Et après, il s'était écroulé en playoff. Uh-huh. Donc c'est quelqu'un qui apparemment
c'est un numéro 2. C'est numéro 2 de Popovic quoi.
Il a été longtemps assistant, mais il y a un paquet de coachs aujourd'hui qui sont passés sur le banc.
En fait, j'ai l'impression que dès qu'on parle d'un coach, on dit ouais, c'était un des assistants de Popovic quoi.
Mais c'est un mec qui à Atlanta a fait des miracles. En saison régulière avec Al Horford, avec Jeff Teague, avec Joe Johnson.
En saison régulière.
Et après, en playoff, ça a été plus compliqué. Ça reste un bon coach, mais qui est otage de Giannis Antetokounmpo, en fait. Qui a un des meilleurs joueurs au monde. Et la NBA est une ligue de joueurs, elle n'est pas une ligue de coach. Donc, à un moment donné, tu laisses faire le garçon, quitte à ce qu'il fonce dans un mur, il fonce dans un mur.
Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu veux lui dire non, mais t'es pas terrible, hein,
Le coach de la Grèce au championnat du monde 2019, il a fait la même chose, et Giannis Antetokounmpo, il s'est pris des murs toute la compétition, voilà.
Et le troisième larron, on est d'accord qu'on parle de Chris Middleton.
Chris Middleton qui est un joueur silencieux, qui a 20 points de moyenne, qui est All-Star, qui est une deuxième arme très forte parce que il laisse faire Giannis, mais c'est souvent lui qui a les ballons. En fin de match, Giannis Antetokounmpo, pas folle la bête, hein. Quand il y a un tir à mettre, il préfère donner la balle à Chris Middleton que de prendre ses responsabilités. Ça a été souvent le cas la saison dernière. Chris Middleton est bien plus clutch que Giannis Antetokounmpo.
Parce qu'il est pas capable de faire. Parce que lui, il va être capable de le jouer en un contre un et d'aller près du cercle. Et là, ça va serrer sur les derniers.
Il peut faire plus de choses, Chris Middleton, balle en main. Mais c'est soldat, dans le terme est péjoratif, mais c'est un
soldat de luxe, quoi.
Soldat de luxe qui mériterait peut-être un petit peu plus la lumière sur lui parce qu'il fait du taf et il accepte de passer derrière Giannis Antetokounmpo, alors que si on lui filait peut-être un petit peu plus de gonfle, le stade pourrait être un petit peu plus ronflante.
Et alors il y a quand même notre petit français Axel Toupane qui a été rappelé de G-League, mais oui, pour jouer pas grand chose pour le moment, hein.
Il a été starter une fois quand les Bucks ont envoyé l'équipe B,
voilà,
face à New York. 27
minutes et il a fait son match, hein.
Ouais.
Quoi,
oui, il a fait son match, il a fait quoi, 4 points, non?
Je croyais que c'était mieux que ça. Alors j'ai dû me tromper.
Non, je crois qu'il a fait 4 points, 4 rebonds, mais oui, après Axel.
Après, il revient de loin. Enfin, en théorie, c'est un two-way contract. Sauf que comme la G-League est terminée, il a le droit de faire plus de matchs et pouvoir même jouer les playoffs.
C'est un poste où, je pense que ça sera plus un joueur de
garde. Il n'a pas d'avenir là-dedans.
Bah, c'est compliqué dans une franchise comme ça qui a pour but un jour d'être champion NBA dans un secteur bien fourni, le secteur extérieur. Et puis il est un peu moins consistant sur le tir à 3 points que Timothée Luwawu-Cabarro. Donc ça me paraît compliqué, sachant que les Bucks, c'est Giannis qui va tout droit et ça ressort des ballons pour des shooters à 3 points.
C'est Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mercredi à minuit, que vous retrouvez en version longue en podcast sur rmc.fr.
With the first pick in the 2013 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett. Whoa! Of Toronto, Canada, and the University of Nevada, Las Vegas.
Here are the number one pick: Jabbar, Magic, LeBron, Bennett. How's that sound?
Who, in your opinion, Stephen, is the biggest NBA bust of all time?
NBA bust? How about Anthony Bennett, the number one overall pick of the Cleveland Cavaliers? I mean, you could put Kwame Brown, but how about Anthony? How about Anthony Bennett?
C'était la draft 2013. Alors pas un grand cru, mais malgré tout, il y a encore un GM qui s'est troué là, à Cleveland. Anthony Bennett.
Comparé donc à l'époque à Larry Johnson, hein, quand même.
Ouais. Ah ouais, donc,
même fac.
Et depuis, on sait même pas s'il joue toujours au basket.
Tu sais quel est le plus gros fait d'arme d'Anthony Bennett?
Dis-moi.
Il a gagné l'Euroleague
en 2017 avec le Fenerbahçe
Obradovic.
Alors il y a pas mal de joueurs qui continuent leur carrière en Euroleague.
Moi,
dans cette draft 2013.
C'est une question du quiz, ça, non?
Pas du tout.
Ah, okay.
Non, mais je pensais que t'allais nous sortir une connerie comme l'autre qui collectionne les stickers de Jordan. Mais non, ok, très bien, je note. Anthony Bennett, Victor Oladipo, deuxième de cette draft, et alors notre ami Giannis a été sélectionné en 15e position par les Bucks de Milwaukee, mais évidemment il n'était pas le joueur qu'il est devenu.
Il avait 8 cm de moins et à peu près 30 kilos de muscles en moins aussi. Hein.
T'as vu une photo de Giannis Antetokounmpo quand il est arrivé en NBA?
Ça fait
une brindille.
Ouais, c'est incroyable cette transformation et on peut comprendre qu'il n'était choisi que 15e. Oui. En revanche,
ouais, c'est déjà, honnêtement,
c'est un bon pari. 15e.
C'était quand même déjà un gros pari.
Alors, on va refaire la draft 2013 parce que c'est un exercice qui plaît énormément à nos auditeurs. Mais avant, vous allez m'expliquer ce choix d'Anthony Bennett là, parce qu'on sent aux réactions déjà sur place en direct qu'il y a un problème, non? Quand ils choisissent Bennett.
Bah déjà, c'est un choc et si je ne me trompe pas, c'est le premier Canadien à être drafté de numéro 1.
Oui.
Donc déjà, c'est impressionnant. Alors, cette draft a été bizarre aussi parce que c'était la dernière de David Stern. David Stern, le commissionnaire NBA pendant plus de 30 ans, et c'était sa dernière. Et ensuite, Anthony Bennett, il y avait beaucoup de difficultés à savoir qui allait drafter premier de cette draft. C'était pas comme...
Il n'y avait pas un nom qui sortait du lot. Il n'y avait pas Zion Williamson.
C'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas Zion Williamson, donc c'est difficile. Et Anthony Bennett avait une très bonne réputation, très très bonne sur sa première année. Il a fait qu'une année d'université. Il a une très bonne année. Il est dans le meilleur 5. Honnêtement, c'est avec le recul, oui, on sait que c'est pas, mais c'est pas si étonnant que ça. Et comparé encore une fois à Larry Johnson, c'était pas tout à fait Larry Johnson, c'était plutôt grand match Johnson.
Ouais, c'est un gamin qui était à 16 points, 8 rebonds de moyenne à UNLV en jouant que 27 minutes parce qu'il avait un problème d'épaule, donc il était ménagé au niveau des minutes.
Ce qui l'a embêté après aussi sur son début de carrière en NBA.
Exactement, mais quand tu le vois arriver en NBA d'entrée de jeu, il met pas un panier, je crois qu'il attend le 30e match pour dépasser la barre des 10 points. C'est un buzz complet et puis c'est malheureux pour le gamin, quoi.
Il y a quand même des franchises qui sont spécialistes pour se trouer sur les drafts.
Cleveland, ils sont pas mal, je crois.
Ouais, Cleveland, Minnesota.
C'est correct.
Alors, vous avez choisi 10 joueurs.
5 chacun.
Non, 10 chacun. J'en ai choisi 10 aussi, je vous les donnerai peut-être après. Attends, je choisis que 5, Steve. Bah, non, les 5 premiers.
Non, en fait, j'en ai 10, mais je pensais qu'avec Fred, on se faisait un chacun pour se faire un 5.
Allez, vas-y, Fred, tu commences. Premier choix.
Ouais, bah, merci. Merci, bravo.
Yannis, peut-être.
Voilà. Et alors, à partir du deuxième, ça devient intéressant.
T'as pris qui?
Yannis.
Ah, merci, bravo.
À partir du deuxième, ça devient intéressant. Il y a Victor Oladipo, il y a CJ McCollum, il y a Rudy Gobert.
With the second pick of the 2013 draft.
Ouais.
I select Rudy Gobert.
Évidemment,
from Cholet
merci,
Basket.
Oh, from Cholet Basket. Est-ce que c'était ton deuxième choix?
Non, moi je suis resté sur Oladipo.
Alors donc, du coup, en troisième, tu choisis?
En troisième, je choisis Rudy Gobert.
Non, tu choisis Victor Oladipo puisqu'il vient de choisir Gobert.
Ok, Victor Oladipo.
Très bien. Oladipo, troisième.
Une fois
toi, attends, expliquez-moi pourquoi l'un et l'autre, tu choisis Rudy avant Oladipo et toi Oladipo avant Rudy.
Bah, parce que j'ai envie de construire sur un big man défensif, sachant qu'il y a beaucoup d'arrières qui peuvent mettre des points dans cette draft. Je me suis dit qu'avoir un big man défenseur rebondeur, ça peut être
et aujourd'hui, Oladipo, Gobert, tu préfères avoir qui dans ton équipe? Pour toi, Oladipo,
ça, alors ça dépend de l'équipe que j'ai, encore une fois, mais je pense que ça cadrait mieux avec.
On le dit quand même.
Je sais pas.
La carrière d'Oladipo, elle est quand même. Elle a été.
Honnêtement, je sais pas.
À Indiana, et là, elle descend.
Je sais pas, et tu sais combien j'aime Rudy, mais je suis pas sûr. Je pense que je reste avec Oladipo, moi, parce que belle carrière quand même.
Beaucoup blessé,
ça c'est vrai.
Après, attention, à Miami, ça peut les booster encore, non?
Ouais, c'est un bon trade d'avoir Oladipo à Miami avec Jimmy Butler, avec, comme il s'appelle, Duncan Robinson, Tyler Hero, Bam Adebayo. Miami, ils vont monter aussi, ils vont faire comme ça. Comme les Nuggets.
Quatrième choix, Steve.
Quatrième choix, j'hésite, mais je pense que je vais prendre CJ McCollum.
Ouais. Très bien.
J'avais le même.
Le shooter de Portland.
De Portland, ouais. Le binôme de Damien Lillard.
Très bien. Après, on va peut-être descendre d'une catégorie, là. Je pense que sur les quatre premiers.
Je pense que sur les quatre premiers, on était tous d'accord. C'était l'ordre qui pouvait dépendre un petit peu, mais on était tous d'accord.
Alors, t'as le cinquième choix, donc,
moi,
Frankie.
Schröder.
Ah, Dennis Schröder, le meneur des Lakers.
Merci à l'année dernière. Meneur des Lakers. Belle, belle petite carrière, quand même.
Je suis content parce que je me suis pas trop trompé. Si j'avais été GM d'une franchise, j'aurais pas trop fait n'importe quoi.
Écoute,
Sixième choix,
moi, j'ai besoin d'un peu de scoring. J'ai besoin d'un peu de mecs qui mettent des ballons dans le panier. Et je vais prendre ma man, Tim Hardaway Jr. de Dallas Mavericks.
Ah, c'est pas forcément très objectif, mais, il était sixième aussi dans ma liste. Il était pas loin, toi?
Il était huit, moi.
Il était huit, ah. Qui prends-tu en septième, alors? Quelqu'un que tu as mis avant Tim Hardaway?
Steven Adams.
Ouais, moi, très bien.
J'ai déjà un big man, moi, avec Rudy.
Moi, c'est mon deuxième big man et j'avais envie d'avoir Aquaman dans mon équipe. Un mec costaud, solide, qui incarne une franchise, alors même s'il a depuis été transféré, mais qui a vraiment incarné OKC pour moi et qui a été important dans cette franchise.
Pas bon à inviter à manger. Steven Adams.
Ah ouais.
tu connais sa sœur?
Sa
sœur? La famille Adams.
Ouais, d'accord.
Non, sa sœur Valérie, championne olympique de lancer du disque ou du marteau.
Ah non, je connais pas l'histoire.
Tu connais pas Valérie Adams, quoi?
Bah, je me renseignerai. Ouais. Et on en parlera.
Non, c'est vrai.
Ouais, très bien, je te crois, il n'y a pas de problème. Huitième,
moi j'aime bien les mecs qui mettent le ballon dans le panier, donc je vais prendre un autre shooter, je vais prendre Seth Curry.
Ah, Seth Curry, j'avais même pas vu dans ce.
Mais pas drafté.
Drafté deuxième tour, non?
Non, pas drafté, Seth Curry.
Ah, Seth Curry.
Je mettrai ma main au feu, oui, quasiment.
Attends, on va vérifier. Seth Curry, est-ce qu'on le voit dans cette draft? Non, je crois qu'il a raison, Fred.
Seth Curry, pas drafté, exact. Bravo. En provenance de Duke.
Ok, neuvième.
Ben, moi, j'aime bien les mecs qui défendent. Donc, KCP.
Alors, Kentavious Caldwell-Pope.
Exactement.
Ok, et donc il te reste un joueur à choisir. Il reste Geoffrey Lauvergne, Steve.
Ouais, je vais attendre un peu un autre tour pour prendre Geoffrey.
Joe Lolo, il rend des services quand même, non?
Ouais, bah après.
T'as tes deux big men.
Après.
Fais gaffe parce qu'il doit nous écouter de temps en temps.
Bah, il n'y a pas de honte.
T'es 55.
Il n'y a pas de honte à dire que je vais attendre un peu quand même, non?
T'es 55, Joe Lolo.
Je vais prendre Otto Porter Jr. qui joue aujourd'hui à Orlando.
Très bien. Pour quelle raison?
Parce que il est gaucher.
Alors écoute, quand on en arrive à Otto Porter, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein.
Il est drafté numéro 3 hein, quand même.
Oui,
Otto Porter.
D'accord, mais je pense
qu'il arrive de George
Carrier, il est à 11.5 rebonds.
Ouais, c'est correct. Hein.
C'est plutôt correct.
C'est une émission de spécialistes, mais bon, là quand même, on peut pas aller en dessous de Otto Porter, non? Alors écoutez, moi je vais me faire plaisir, je vais vous donner ma draft et vous allez me dire s'il y a un problème avec Giannis en 1, Rudy en 2, McCollum en 3 et Oladipo en 4. J'avais mis Schröder en 5, Hardaway en 6,
bravo.
Steven Adams en 7. Et après, c'est là que j'ai fait une sortie de route. J'ai pris Kelly Olynyk en 8 et en 9. Alors je me suis dit peut-être il va l'évoquer
Shane Larkin.
Draft 18.
C'est pas possible Shane Larkin en NBA.
Ah bah c'est un très bon joueur mais il maîtrise tellement l'Euroleague, c'est incroyable.
Après je pense que aujourd'hui si tu lui donnes des vraies responsabilités dans une ère où les meneurs peuvent shooter tous les ballons, je pense qu'il peut faire quelque chose
oui. Shane Larkin. Mais quel niveau quoi, deuxième niveau? Genre
backup. Quand je vois qu'un Brad Boneymaker a fait son trou NBA, je me dis Shane Larkin peut.
Bien sûr, c'est plus fort que Brad Boneymaker.
Peut faire quelque chose.
C'est un spécial Giannis Antetokounmpo et donc les questions du quiz concernent de près ou de loin Giannis Antetokounmpo.
Oh, ça vaut, toi.
Quel magazine, quel papier?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré pour trouver des questions intéressantes sur Giannis qui nous permettent un peu d'apprendre quelque chose ou de parler de sa carrière. Alors, on y va. Il faut d'abord deviner un joueur de basket qui est entré au Hall of Fame en 2013, d'accord?
C'est un rapport
Olajuwon
qui a un rapport, oui, bien sûr, avec Giannis, bien sûr. Non, c'est pas Olajuwon. Entraîneur de l'année en 1987 avec les New York Knicks, d'accord, qui passe des bas-fonds du classement NBA à la première place de la division Atlantique en 87. Mais c'est surtout en NCAA que j'ai fait mes armes. D'abord avec les Wildcats de Kentucky.
Rick Pitino,
oui, oui. Absolument.
Palatinakos.
Le sélectionneur de la Grèce, surtout.
Exact.
Et donc, il doit trouver la solution, lui aussi, pour jouer avec Giannis, parce que ça, on n'en a pas parlé dans cette émission, mais fiasco avec la Grèce aussi, Giannis.
Hein. Après, jeu FIBA, encore une fois. C'est un peu plus fermé dans le racket.
Et le deuxième problème des Grecs, c'est qu'ils n'ont pas de tireur à trois points, en fait. Donc c'est problématique quand Giannis.
Ce qui est d'ailleurs bizarre pour leur histoire, non?
Ouais, mais ils ont pas de spécialiste du tir. Nick Calathes peut pas mettre un panier. Thanasis Antetokounmpo.
Antetokounmpo.
Quand c'est Noël.
Et Calathes sur le terrain en même temps, tu peux reculer. Hein.
Donc Rick Pitino, un point pour Stephen. Ensuite j'ai une déclaration et puis il y aura des enchères pour terminer. Alors une déclaration. Qui a déclaré je veux juste quelqu'un qui fait des passes. Qui Giannis. A eu cette phrase? Giannis Antetokounmpo, mais à quelle occasion?
Quand il était capitaine pour le All-Star Game, et qu'ils choisissent leur coéquipier.
Et alors qu'il avait choisi qui?
Il avait choisi un mec qui fait les passes, James Harden.
Kemba Walker. Non mais justement,
à la place de James Harden.
Voilà, alors qu'Harden est disponible, ouais. Il prend Kemba Walker et il dit je veux juste quelqu'un qui fait des passes. Ce à quoi Harden avait répondu oui, j'ai fait plus de passes que Kemba Walker, donc je comprends pas bien la blague. Il était vexé Harden. Cela dit, complètement débile de pas prendre Harden, non, pour le All-Star Game.
Ouais, je sais pas. Moi, Chris Diego, encore une fois. Hein.
Donc ça fait un partout. Et alors là,
j'ai
attention.
Très peur pour les enchères.
Très peur. Hein.
Ouais, moi aussi.
Mais là, je peux vous dire que c'est compliqué. Hein. Je vais vous demander. Combien sur 13, hein, combien de joueurs grecs ayant joué en NBA vous êtes capable de me citer? Alors réfléchissez un peu avant de me donner une proposition parce qu'il y en a quelques-uns que vous pouvez trouver quand même. Hein. Il y en a 13 en tout. Hein. Et en comptant Giannis Antetokounmpo. Qui veut se lancer? Fred, il est...
4.
4, ok.
4
Ouais.
T'en as plus?
5.
5 Tu peux monter, hein. Tu peux monter. Franchement,
là,
tu
pas
beaucoup plus haut, mais tu peux monter.
Là, je vois pas du tout. Hein.
Pour une raison très simple.
Oui, mais j'en ai 3. C'est pour ça que j'ai dit 4. Et je rajoutais Calathes après, mais...
Ok, donc tu restes à 4. Ouais, tu ne pas 6.
Non, je vois pas.
Allez, vas-y, Steve.
Alors, Kostas Antetokounmpo.
C'est bon. Ouais, il me faut les prénoms. Hein, bien
Kostas,
sûr.
Je viens de te dire.
Ouais.
Thanasis Antetokounmpo. Yannis Antetokounmpo.
Voilà, t'en es à 3.
Ça fait 3.
Il t'en manque
2.
2.
Nick Calathes,
bien sûr.
Ça, j'avais les 4.
Le meneur du Barça qui avait été au Grizzlies 2 saisons quand même. Et là, 2013-2015.
Et là, je pense que je vais te sortir un nom, même si 5 sur 13, c'est pas terrible, mais qui va quand même te montrer que je mérite la victoire.
Il y a du niveau, ouais.
Je vais tenter Eftimos Frentzias.
Eftimos Frentzias, il a joué en NBA?
Eftimos Frentzias, absolument.
Frentzias, il a joué en NBA.
Aux Sixers de 2002.
Ah,
à 2003, absolument. Après, il y a des joueurs.
Spanoulis, il a joué NBA.
Spanoulis aux Rockets 2006-2007.
Ah oui. Exact.
Et il y en a encore qui jouent en ce moment dans des grands clubs, enfin, en tout cas en Euroleague.
Kostas Koufos,
absolument, qui a joué au Jazz, à Minnesota,
exactement.
À Denver, à Memphis et aux Kings.
La même zen que toi, Kostas Koufos, tu iras voir sur.
On a un autre joueur de l'Olympiakos.
Oui, le gaucher lui. Là.
Tu sais là qui délivre comme ça là.
Papanikolaou.
Exactement. Kostas Papanikolaou aux Rockets et aux Nuggets. Et il y a un joueur actuellement au Pana qui a fait deux saisons aux Kings et aux Trail Blazers.
Au Pana.
Ouais.
Nikos, non, Papa
Petrou. Yorgos.
Hein?
Papa Giannis,
eh oui, et le grand, mais oui, bien sûr, Papa Giannis.
Voilà. Le père et les de, autres, il y a Jack Tsakalidis et Antonios Fotsis.
Oui.
Et Andreas, alors ça je ne connais pas, Gliniadakis.
Gliniadakis, un grand de 2-20, je crois.
Qui a joué au Sonics de Seattle.
Très bien.
Bravo, messieurs.
Bravo, Pierrot, bravo à toi.
Vous avez été très bon.
Pour un mec qui à 18h15 n'était pas prêt, bravo. C'était un très joli podcast, Pierrot.
Merci à tous et à la semaine prochaine pour Basket Time.
RMC Basket Time.